France Culture.
Il y a une semaine débutaient les attaques d'Israël contre l'Iran. Les frappes israéliennes ont d'abord visé des sites nucléaires et militaires, puis pétroliers et gaziers, générant ainsi un lourd bilan humain. Le détroit d'Ormuz, point de jonction entre le golfe Persique et le golfe d'Oman, et par où transite 20% de l'approvisionnement mondial de pétrole, est depuis menacé de fermeture et le prix du baril a augmenté de plus de 10% dès le 13 juin, dans un contexte où il était jusqu'ici relativement bas. Une incertitude qui illustre la très grande volatilité de cette matière première et surtout la dépendance plus générale aux énergies fossiles qui caractérise les économies mondiales. Si la demande devrait, selon l'Agence internationale de l'énergie, augmenter au moins jusqu'en 2029 avant de se stabiliser, les capacités mondiales de production, elles, devraient encore augmenter de 5 millions de barils par jour à 114,7 millions de barils quotidiens en 2030. Je suis favorable à l'idée de travailler un jour sans combustible fossile, mais je suis très réaliste, le monde n'est pas prêt à vivre sans pétrole. Voilà ce qu'a déclaré hier le président brésilien Lula. En début de semaine, en effet, le Brésil a octroyé la concession de champs pétroliers situés à l'embouchure de l'Amazone, cédés à 4 multinationales pour la modique somme de 153 millions de dollars. L'occasion pour Lula de s'interroger, pourquoi ne pouvons-nous pas explorer cette richesse qui nous appartient pour produire une autre richesse, la transition énergétique? Mais de quelle transition parle-t-on? Le 30 avril dernier, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, Emmanuelle Wargon, a appelé à ralentir les cadences du développement de l'éolien et du solaire, car la demande a pris du retard, et je la cite là, « Les investissements dans le pétrole et le gaz à travers le monde, et en particulier dans l'exploration et la production, sont à leur plus haut niveau depuis 2015 et devraient encore augmenter. » Alors qu'est-ce qui pourrait faire bouger les lignes? Est-il seulement possible de penser, de concevoir un monde où l'on est débarrassé d'une source d'énergie en tant que telle, et que nous en enseigne l'histoire longue de l'énergie sur les possibilités réelles d'une éventuelle transition? Toutes ces questions sont sur la table ronde d'actualité d'Entendez-vous l'écho dans cette émission programmée et préparée par Bruno Barada, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Olivier Armé. Et trois invités sont avec nous aujourd'hui en studio. Francis Perrin, vous êtes chercheur et directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des problématiques énergétiques. Vous êtes également chercheur associé au Policy Center for the New South à Rabat. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour et merci de l'invitation.
Patrice Geoffron, vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine et directeur de l'équipe Énergie-Climat. Bonjour.
Bonjour, merci également.
Et enfin également avec nous Jean-Baptiste Fressos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des sciences, des techniques et de l'environnement, chargé de recherche au CNRS. Vous êtes l'auteur de Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie parue au Seuil en janvier 2024. Et vous avez également co-dirigé avec François Jarige, Thomas Leroux, Corinne Marache et Julien Vincent un ouvrage intitulé La nature en révolution, une histoire environnementale de la France 1780-1870. C'est le premier volume paru à la découverte le 20 mars 2025.
Les installations pétrolières iraniennes n'ont pour l'instant pas été ciblées par la campagne de frappes israéliennes, ce qui n'a pas empêché l'envolée des cours du brut ce vendredi. Encore bien en dessous des prix records d'il y a un an, le prix du baril a atteint son niveau le plus haut de ces cinq derniers mois.
Les prix du pétrole brut ont grimpé jusqu'à 14%, la plus forte variation dans une journée depuis 2022, date de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
La production iranienne, la neuvième plus importante au monde, n'est a priori pas impactée et peut dans l'immédiat continuer d'exporter 1,5 million de barils par jour. Si ces exportations étaient freinées ou stoppées, les pays de l'OPEP, menés par les Saoudiens, pourraient pallier le manque, gagnant ainsi des parts de marché. Mais c'est la situation sécuritaire dans l'ensemble de la région, bouleversée par le conflit en cours, qui affole les investisseurs et fait grimper les prix. Les marchés anticipent de potentielles difficultés d'approvisionnement. Cette flambée des cours de pétrole pourrait largement s'accélérer dans un cas de figure si l'Iran décide de bloquer le détroit d'Ormuz, passage obligé du golfe Persique vers la mer d'Arabie, par où transite 20% de la production mondiale.
Un reportage de France 24 daté du 13 juin dernier où l'entendait notamment Carmel Krimins, journaliste économique chez Reuters. Alors pour bien comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement et de quel niveau de risque on parle là également, samedi dernier, le 14 juin, l'armée d'Israël a touché deux sites pétroliers près de Téhéran ainsi qu'un complexe de production gazière au sud. Si on se concentre dans un premier temps sur la production iranienne et pas nécessairement la distribution, cette production représente 5% de l'offre pétrolière à travers le monde selon la National Iran Oil Company, mais cet approvisionnement est très ciblé, la moitié est exportée à 89% vers la Chine, le reste allant vers la Syrie, les Émirats Arabes Unis et le Venezuela, et du reste l'île de Karg dans le golfe Persique où transite l'essentiel des navires exportant ce pétrole iranien n'a pas été touché pour le moment. Francis Perrin, est-ce qu'il faut comprendre que c'est essentiellement la consommation intérieure, celle de la population iranienne qui est visée ?
Effectivement, dans le conflit qui a débuté donc le 13 juin dernier, certaines installations énergétiques non nucléaires ont été frappées. Vous avez évoqué pour le pétrole des raffineries et des dépôts de stockage de produits pétroliers. Mais à ce jour, et il faut évidemment rester très prudent pour la suite, il n'y a pas eu de la part des Israéliens la volonté, et ils en ont largement les moyens, donc la volonté de frapper la production des champs pétroliers, de frapper l'exportation, les terminaux iraniens sur le golfe arabo-persique. Les Israéliens ont évidemment, vu leur maîtrise du ciel, ont évidemment les moyens demain d'empêcher l'Iran d'exporter le moindre baril de pétrole en frappant les terminaux, en les détruisant complètement. Donc s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas le faire. Et ils ne veulent pas le faire parce que M. Trump ne le voudrait pas. C'est un élément important parce que ça ferait monter très fortement les prix du pétrole. Et le locataire actuel de la Maison-Blanche n'aime pas les prix du pétrole trop élevés. Il veut les faire baisser, c'est l'une de ses obsessions, parce que, comme il le dit, c'est pas faux évidemment, c'est bon pour le consommateur américain, c'est bon pour l'industrie américaine, non pétrolière évidemment, c'est bon pour l'économie américaine. Et entre l'arrivée de Trump le 20 janvier dernier et quelques jours avant les troubles actuels, le prix du pétrole avait baissé en gros de 10 dollars par baril. On était passé d'un Brent, un pétrole en mer du Nord, de 75, quand Trump arrive, par dollars par baril, à environ 65. Et les tensions Israël-Iran, avant le 13 juin, et évidemment depuis la guerre, ont fait remonter les prix du pétrole au-dessus du niveau auquel il était quand Trump arrive à la Maison-Blanche. Donc déjà, c'est pas une bonne chose pour lui, il faudrait certainement pas que les prix du pétrole flambent. Donc c'est la principale raison, elle est évidemment géopolitique, pour laquelle les Iraniens, qui pourraient détruire demain le complexe pétrolier iranien, ne le font pas. Ils frappent certaines installations visant la consommation interne, comme vous l'avez évoqué. Or, quel est le raisonnement derrière ? Ça peut créer des pénuries internes. Ça peut accroître les mécontentements, et il y en a déjà beaucoup, de la population iranienne qui pourrait se retourner contre le régime.
Et puis Francis Perrin, il faut bien préciser aussi que le régime iranien a prévu dans son budget 2025-2026 que ses ressources financières seraient baissées à 35% sur les revenus du pétrole. Ça, c'est non négligeable.
C'est là le principal secteur dans l'économie. Le gaz est important, mais nettement moins important, parce que l'Iran, qui est un géant gazier, exporte peu de gaz. Parce que le gaz est essentiellement capté par la consommation interne de l'Iran, qui est très importante. C'est un pays d'environ 90 millions d'habitants. Alors que le pétrole est pour moitié consommé sur place et pour moitié exporté. Donc environ, dans les premiers mois de l'année, 1 700 000 barils par jour exportés. Donc c'est la principale source de revenus de l'économie iranienne, du régime, de l'État iranien, c'est essentiel. Mais voilà, il ne faut pas s'y attaquer parce que derrière, il y aurait un risque de flamber des prix. Donc on tape des installations pétrolières, mais à usage interne. Le gaz, vous l'avez évoqué, une zone du champ de South Pars, centrale électrique, mais pas ce qui permet de déterminer et de maintenir la production et les exportations pétrolières de l'Iran à ce jour.
Patrice Geoffroy, on le comprend, on n'est pas encore dans une situation de flambée du prix des pétroles. Alors il y a eu ce fameux pic de 10% dans l'immédiat après les attaques le 13 juin. On le disait, l'Iran c'est tout de même un acteur important, il produit 3,4 millions de barils de brut par jour, c'était le cas en avril, ce qui en fait le troisième acteur le plus important parmi les membres de l'OPEP derrière l'Arabie Saoudite et l'Irak. Quand un tel acteur est attaqué, ça représente tout de même un risque de déstabilisation majeure. En fait, c'est plus ce qu'on anticipe dans le futur que vraiment ce qui se passe aujourd'hui qui inquiète.
Oui, mais de fait, et Francis Perrin l'a dit assez largement, la perspective d'un blocage du détroit d'Ormuz, en tout cas dans l'état actuel des choses, est assez hypothétique. Il y a eu des menaces par le passé, assez récurrentes, mais de fait, ça n'a jamais été le cas. Il faut imaginer qu'il y a toute une série de garde-fous, je ne sais pas si c'est le terme le plus approprié, mais enfin, gardons-le. La cinquième flotte, je crois, américaine, qui est dans la zone. Et puis, par ailleurs, il y a la quasi-intégralité des voisins de l'Iran qui ont besoin d'extraire leur pétrole. Et ce pétrole, Francis l'a dit, il va, pour l'essentiel, à la Chine. Donc, ça fait quand même beaucoup d'éléments. Alors, ça n'exclut pas la possibilité d'une action, j'allais dire, désespérée, in fine, qui conduirait dans cette direction. Mais de fait, ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. On peut observer d'ailleurs que le rebond du prix du baril est relativement modeste. On aurait pu imaginer dans d'autres circonstances que ça monte plus haut. Et derrière tout ça, il y a plusieurs facteurs explicatifs. L'un d'entre eux étant quand même que la demande, dans le contexte qui est installé en matière de commerce international par Donald Trump et dans le bazar mis, allons directement au but, depuis des mois maintenant, tout ça ne concourt pas à une forte dynamique de la demande pétrolière, d'où ce petit rebond, mais qui est assez modeste. Néanmoins, les scénarios qui pourraient être les scénarios du pire, qui encore une fois sont assez peu probables dans l'état actuel des choses, pourraient conduire le prix du baril à 130, 150 dollars peut-être. Et à ce moment-là, vu d'Europe, il faudrait se souvenir, notamment vu de France, que nous importons à peu près 99% du pétrole que nous consommons, par ailleurs 96% du gaz. La question du gaz est importante. S'il devait y avoir un blocage d'Ormuz, c'est moins, Francis l'a dit, moins la question du gaz iranien qui est à consommation à destination intérieure que du gaz qatari, qui lui va notamment vers l'Asie, mais avec un impact à ce moment-là très probablement, enfin mécaniquement, sur les cours mondiaux et notamment sur l'Europe. Et la France importe 96% de son gaz. Et à ce moment-là, on se souviendrait que si on fait un peu d'histoire, mais je ne vais pas me substituer à ce que dira mon voisin de droite, si on se souvient non pas de notre histoire lointaine qui est celle du XXe siècle, mais de notre histoire récente à nous Français, on a eu deux chocs pétroliers très violents. La crise des gilets jaunes est le résultat d'un moment dans l'histoire où le prix du baril est multiplié par deux entre 2016 et 2018. On sait ce qu'ont été les conséquences sociopolitiques. Et puis évidemment, la crise de 2022 est une crise énergétique à spectre large, mais essentiellement gazière et pétrolière, et avec des coûts pour la collectivité que nous devons encore assumer pour l'heure.
Effectivement, Jean-Baptiste Fressoz, puisque nous parlons d'une histoire alors plus ou moins lointaine, plus ou moins récente, mais si on quitte effectivement les remous conjoncturels qui nous occupent aujourd'hui d'un point de vue plus historique, cette volatilité qui témoigne aussi d'une forme de dépendance à cette matière première en elle-même et donc d'une soumission générale à l'incertitude, est-elle une chose entièrement nouvelle? Est-ce que de pareilles tensions sur l'approvisionnement sont de nature à changer les mentalités, à des prises de conscience aussi? Est-ce que ce sont des choses qui sont advenus, on en a connu des chocs pétroliers, mais est-ce qu'on observe véritablement un changement de régime, entre guillemets, à l'occasion de ce genre de crise d'approvisionnement?
Je crois que la discussion actuelle montre que ce n'est pas le cas. En fait, c'est-à-dire on parle de la guerre en Iran et de ses conséquences sur le prix du pétrole qu'on aurait pu en parler il y a 20, 30, 40, 50 ans. En fait, je dirais qu'on est un peu dans un régime qui s'inscrit dans la filiation des années 70, des chocs pétroliers des années 70. À la différence près sans doute qu'à cette époque, il y avait une inquiétude sur l'épuisement des ressources. Et donc ça donnait une dimension beaucoup plus existentielle en fait à ces débats-là. C'est très net sous la présidence de Jimmy Carter en particulier aux États-Unis où le président est vraiment persuadé qu'à terme il va falloir se passer, en tout cas réduire drastiquement la consommation de pétrole parce qu'elle va diminuer. Et là maintenant on se rend compte qu'en fait le sujet c'est plus vraiment ça quoi. C'est plutôt qu'en fait on a une très très grande abondance de pétrole et sans remous géopolitiques en fait le cours du pétrole serait relativement stable et pas particulièrement inquiétant. Donc c'est doublement inquiétant parce que on en parle à la fois comme si la question du changement climatique n'était pas présente et archi centrale et archi urgente. Et deuxièmement, ça montre à quel point en fait l'industrie a été capable de fournir le marché avec des progrès technologiques majeurs en fait qui ont eu lieu depuis la fin des années 70 principalement liés à des techniques d'extraction de pétrole de roche-mer. Ce qui fait que pour les États-Unis, alors certes c'est embêtant, ça ferait augmenter le cours du pétrole, ça a des effets politiques certes, mais de fait les États-Unis sont maintenant un grand exportateur de pétrole. Alors, c'était pas le cas en 1973, quoi.
Et on voit effectivement que dès lors que le sentiment d'urgence refait surface, les questions environnementales, climatiques ne sont pas forcément au centre de la discussion, c'est le moins que l'on puisse dire. Une autre leçon de l'histoire, Francis Perrin, alors beaucoup plus récente, c'est qu'au cours de l'été 2008, pour celles et ceux qui s'en souviennent, les prix du baril aussi avaient flambé jusqu'à atteindre 147 $, déjà à l'époque sur fond de tension entre l'Iran et Israël. Alors Francis Perrin, deux questions en une. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle véritablement une flambée dans ce qui concerne le cours du pétrole, et puis quelles avaient été les conséquences à l'époque?
Effectivement, il faut distinguer hausse des prix et flambée des prix. Voilà. Bon, il n'y a pas évidemment de définition officielle, hein, c'est subjectif, mais quand même, on voit bien la différence dans les mots. Avec la guerre actuelle, donc qui a commencé le 13 juin, entre le 12 juin en fin de journée, pour le Brent à Londres, et aujourd'hui, avant que nous commencions l'émission, la hausse du prix du Brent est de 11%. On était à un peu au-dessus de $69 par baril à Londres le 12 juin en fin de séance, et on est, au moment où nous commençons cette émission, à un peu au-dessus de $77 par baril. C'est une hausse significative, plus 11%, c'est pas rien. Le consommateur dira certainement pas que c'est rien, évidemment. C'est pas une flambée des prix. Alors, nous parlions de la guerre en Ukraine tout à l'heure. Revenons, c'est 2022. Enfin, la guerre en Ukraine, elle existe toujours, malheureusement, mais la deuxième guerre a commencé fin février 2022. Au début mars, donc à peine deux semaines après le début de l'agression russe contre l'Ukraine, le prix du Brent à Londres frôle les $140 par baril. Ça, c'est une flambée des prix. Ce que nous vivons aujourd'hui, mais il faut préciser jusqu'à aujourd'hui, demain, en fonction de certains scénarios, plus ou moins vraisemblables, blocage du détroit d'Ormuz, comme cela a été dit, je n'y crois pas beaucoup, mais c'est pas non plus complètement impossible. Est-ce qu'Israël ne va pas quand même taper plus durement sur le pétrole en Iran? Bon, il se mettrait à dos Donald Trump, c'est pas évident, mais c'est pas complètement impossible. Est-ce que l'Iran ne va pas attaquer des pays arabes du Golfe qui abritent des bases américaines et qui sont aussi de grands exportateurs de pétrole, ce qui pourrait faire flamber les prix? Mais pour l'instant, quand ces scénarios se réalisent, on est sur une hausse, mais pas sur une flambée. Vous avez évoqué l'année 2008, hein, $147 par baril pour le Brent. En juillet 2008, c'est le record historique. La guerre en Ukraine, on est frôlé les $140. On était légèrement en dessous. On n'a pas atteint et battu ce record historique. On pense évidemment au choc pétrolier des années 1970, hein, 73-74. Le prix du pétrole multiplié par 4 en 3 mois, entre octobre 73 et janvier 74. Et le deuxième choc pétrolier, 79-80, avec la révolution islamique en Iran, un prix du pétrole multiplié en gros par 2,5 à 3. Bon, ça, c'est vraiment des flambées des cours du pétrole. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ma phrase commence par deux mots importants, pour l'instant.
Pour l'instant, effectivement, nous sommes en pleine incertitude. Effectivement, tous les regards sont braqués sur ce fameux détroit d'Ormuz. On ne sait pas exactement si la menace pourrait être mise à exécution ou non. Francis Perrin, peut-être un petit mot par, finalement, à qui est adressé le pétrole qui on va dire, traverse ce détroit-là. On a dit que c'est 20% environ du trafic pétrolier. Mais il faut rappeler quand même que l'Iran est sous sanction depuis 2018. Donc, ces 20% concernent qui, très précisément?
Alors, par le détroit d'Ormuz, passe chaque jour sur tankers, donc des navires pétroliers, 20% de la consommation pétrolière mondiale. Donc pour les échanges, c'est supérieur, parce qu'une partie de la consommation est à usage interne. 20% de la consommation mondiale, donc à peu près 20 millions de barils par jour, sur une consommation pétrolière mondiale qui est juste un peu au-dessus de 100 millions de barils par jour. 100 millions de barils par jour, c'est à peu près 5 milliards de tonnes de pétrole par an. Ce pétrole va vers le monde entier, mais principalement vers le marché asiatique. Alors on pense bien sûr à la Chine, on pense à l'Inde, on pense à... Voilà. D'abord l'Asie, ensuite l'Europe. Il ne va pas tellement en Amérique du Nord, parce qu'Amérique du Nord, nous avons trois pays. Hein, nous avons Canada, États-Unis, Mexique, trois pays pétroliers sur trois, 100%. Bon. Donc évidemment, ce n'est pas un grand marché pour le pétrole importé. À part pour les États-Unis, le pétrole canadien, ils importent du pétrole du grand voisin du Nord. Mais ils importent aujourd'hui très peu de pétrole du Moyen-Orient, ce qui est très différent de ce qui s'est passé dans les dernières décennies, parce qu'ils sont le premier producteur mondial de pétrole, grâce à leur fameux pétrole de schiste, du pétrole non conventionnel. Premier producteur mondial de pétrole devant Russie et Arabie Saoudite dans un mouchoir de poche. Donc ce pays n'a quasiment plus besoin, quasiment, du pétrole du Moyen-Orient. Ce qui ne veut pas dire que le Moyen-Orient n'est plus important pour Washington. Ce serait une grande erreur d'établir une ligne droite et d'en déduire que les Américains vont partir en courant du Moyen-Orient parce qu'ils n'apportent plus, quasiment plus de pétrole. Il y a d'autres raisons qui les maintiennent et à mon avis qui les maintiendront longtemps au Moyen-Orient. Pas seulement l'importation de pétrole, comme ça a été le cas pendant des décennies.
Et justement, sur ce lien entre les États-Unis et puis les pays membres de l'OPEP de façon plus générale, Patrice Geoffroy, il faut dire que cette tension qu'on vient d'évoquer intervient dans un contexte très spécifique. Depuis le début de l'année, les prix du baril avaient fortement chuté, depuis notamment l'annonce par l'OPEP d'une augmentation significative de sa production. En avril, le brut est descendu sous la barre des $60 le baril, une première depuis 2021. Début mai, les pays exportateurs de pétrole ont annoncé qu'ils sortiraient de terre 411 000 barils supplémentaires par jour en juin. C'est trois fois plus que le plan initial qui prévoyait seulement 137 000 barils supplémentaires. Alors comment comprendre une telle décision d'augmenter à ce point la production lorsque c'est arrivé?
Alors, il y a deux interprétations possibles et qui peuvent d'ailleurs se combiner. La première, c'est pour complaire à Donald Trump. Ça a été dit préalablement. Donc, il y a la promesse qui a été faite à la base électorale de Trump d'un prix du baril très bas et donc d'un prix à la pompe qui serait particulièrement avantageux. Alors, c'est d'autant plus important que, par ailleurs, l'intégralité de l'ensemble des autres décisions qui sont prises aux États-Unis en matière économique vont plutôt avoir tendance à créer de l'inflation, notamment les droits de douane. Donc, en compensation, on peut imaginer que toute la communication qui pourra s'opérer du côté de Trump très directement si il parvenait à maintenir un prix à la pompe très bas. Et de ce point de vue, l'augmentation des volumes du côté de l'OPEP+, c'est-à-dire de l'OPEP plus la Russie et ses alliés, ça fait quand même pas loin de 25 pays, peut s'interpréter de cette manière. Il peut y avoir un bénéfice caché, en tout cas pour certains de ces producteurs, qui est de dire que plus le prix va être bas, moins il y aura d'espace économique pour le drill baby drill. C'est-à-dire pour l'invitation à forer aux États-Unis et à faire que les États-Unis, qui sont déjà dans un état de domination énergétique, sur le pétrole, sur le gaz, mais c'est également un grand territoire avec beaucoup de foncier, la capacité à faire beaucoup d'éoliennes et de photovoltaïques, notamment au Texas, et ça peut apparaître paradoxal, mais de fait, le foncier est assez déterminant. Eh bien, dans ce pays qui a déjà qui regorge d'énergie, il y a la volonté d'en déployer encore plus. Mais pour ça, ça ne pourra pas se faire avec un prix du baril à 60. Il faut, dans la plupart des analyses, et je parle sous contrôle de Francis qui connaît tout ça mieux que moi, mais de fait, on considère qu'il faut avoir la garantie, une visibilité de prix du baril à 70 à 80 plus tôt, pour qu'il y ait des investisseurs suffisamment rassérénés pour investir et pour répondre à l'injonction « drill baby drill ». Et la volonté, c'est d'augmenter de 3 millions de barils. Et donc, si on revient à votre question, eh bien, notamment du côté des Saoudiens, on se dit que tant que le baril reste bas, eh bien, on joue la part de marché et puis on évite qu'il y ait une expansion plus encore aux États-Unis, avec une difficulté pratique tout de même, qui est que les Saoudiens peuvent se permettre de faire cet effort. Cet effort, il les conduit à rester, en tout cas économiquement, en apnée pendant quelque temps. Parce qu'en Arabie Saoudite, on peut extraire des barils à aller à $10. Mais en revanche, le point d'équilibre budgétaire, celui qui permet de couvrir l'ensemble des dépenses du royaume et puis ses perspectives de transformation à 2030, eh bien, c'est plutôt à 80-90. Voilà. Donc, vivre dans un monde à $60-70 le baril, ça peut se faire pour l'Arabie Saoudite parce qu'il y a un fonds souverain et puis il y a des actifs qui peuvent... Saudi Aramco, d'ailleurs, peut vendre quelque part, etc. Donc, c'est soutenable. Il n'est pas du tout certain que ce soit soutenable pour l'intégralité des membres de cette alliance, mais notamment pour la Russie.
Et Francis, Jean-Baptiste Fressoz, vous souhaitez réagir?
Oui, non, je voulais revenir à un point que soulevait Francis. C'est pas parce que les États-Unis ont maintenant produisent beaucoup de pétrole et dépendent beaucoup moins du Moyen-Orient qu'ils vont se dégager du Moyen-Orient. En fait, il faut bien voir que même leur implication dans militaire au Moyen-Orient à partir des années 70 avec un renforcement des bases, etc., il faut pas non plus la relier trop strictement au pétrole. C'est-à-dire, on a tendance à penser que la politique étrangère américaine et d'autres pays est complètement dictée par des questions d'accès au pétrole. Et en fait, il faut imaginer que le pétrole, c'est une ressource comme une autre, quoi, qui s'achète sur un marché et que, en fait, les producteurs de pétrole ont envie aussi de vendre ce pétrole et donc ils ont pas forcément intérêt à se couper de leurs principaux clients. Ce point-là, on le voit très bien quand on considère a posteriori les discussions qu'il y a eu au moment de la guerre, enfin des deux guerres du Golfe d'ailleurs, avec cette idée que c'était une guerre pour le pétrole. Et en fait, quand on y réfléchit un peu, on se dit que ça n'a pas grand sens de penser que les États-Unis ont dépensé des trillions, parce que c'est ces sommes-là, hein, qui ont été dépensées dans les deux guerres du Golfe, pour avoir accès à du pétrole, sachant que ces trillions sont largement supérieurs à la valeur de toutes leurs importations de pétrole du Moyen-Orient pendant des années et des années. Donc vraiment, il faut bien voir que c'est des aspects principalement géostratégiques, d'influence. Et finalement, c'est peut-être que Bush avait pensé vraiment, transformer le Moyen-Orient et que ce discours néoconservateur n'avait pas forcément des arrière-pensées pétrolières et que c'était vraiment des idéologues, en fait, qui ont décidé de se faisant déstabiliser le Moyen-Orient pendant longtemps. Quoi.
Est-ce que Jean-Baptiste Fresseau, ce qui vaut sur le plan géopolitique international, vaut aussi sur le plan national? On parlait du drill, baby drill de Donald Trump. Vous disiez que le pétrole est une ressource comme une autre, mais ils sont quand même très chargés aussi politiquement en tant que promesse de campagne. Est-ce qu'il n'y a pas cette dimension symbolique aussi qui joue dans les politiques américaines de ce point de vue-là?
Sans doute, mais par exemple, le renchérissement des prix des matières agricoles, qui est vraiment embêtant pour le panier des Américains, ça peut être lié à des épidémies dans des usines de poules, quoi, par exemple. Et ça, c'est très, très, très embêtant. Et ça a aussi il faut vraiment voir que l'économie, c'est tout plein de choses. C'est pas du tout que le pétrole. C'est toutes les matières premières qui sont importantes et toutes aussi les biens de consommation qui sont importants. Il faut pas s'obséder, il faut pas se focaliser sur le pétrole, je crois.
Francis Perrin, on le comprend, c'est une forme, avant les tensions qu'on vient d'évoquer, c'est une forme de guerre des prix, finalement, qui a été mise en place avec cette idée de produire beaucoup et pour moins cher, parce que c'est globalement ça le mécanisme, si on le résume très grossièrement. On l'a compris, tout le monde n'aura pas forcément l'haleine suffisamment longue pour tenir le choc, y compris au sein de l'OPEP, ce qui a beaucoup commenté en disant que ça avait généré un certain nombre de tensions, en tout cas que c'était aussi un signe que les choses n'étaient peut-être pas aussi harmonisées, coordonnées, homogènes au sein de l'OPEP. Mais pourquoi donc vouloir mener cette guerre des prix en première instance? Est-ce qu'il s'agit, dans un mécanisme économique très classique, proposer des prix bas, c'est censé dynamiser, susciter la demande? Est-ce que c'est cela le problème aujourd'hui?
Alors, du côté de Donald Trump, il veut des prix du pétrole bas parce que c'est bon pour l'économie américaine. Et c'est vrai que n'importe quelle économie a intérêt à avoir un approvisionnement pétrolier suffisant avec des prix très intéressants. C'est évident. Tout le monde le pense, mais lui le dit, évidemment, et est obsédé par ça. Donc pour ça, il peut jouer sur deux leviers. Pousser les producteurs américains à augmenter leur production, le fameux drill, baby drill. Mais c'est pas si simple que ça. Parce que les États-Unis, au moment où nous parlons, produisent quand même plus de 13 millions de barils de pétrole par jour. Et quand, dans l'administration Trump, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, dit « j'en veux 3 millions de barils par jour de plus », non pas sur 50 ans, mais sur le second mandat de Trump, les pétroliers américains, à commencer par ExxonMobil, lui disent « écoutez, vous êtes bien gentil », mais il lui dit ça poliment, parce que Trump est quelqu'un, évidemment, il faut caresser dans le sens du poil, et donc les pétroliers savent, d'autant plus qu'ils les aident beaucoup, mais lui disent « écoutez, ne croyez pas forcément à ce genre de choses, quand on produit déjà à ce niveau-là, c'est pas évident de produire plus, c'est beaucoup plus, très difficile de produire beaucoup plus, et ce que dit aussi le patron d'ExxonMobil, c'est que si produire plus, si c'était possible, fait baisser les prix, et baisser notre rentabilité, on ne le fera pas. On est des compagnies privées. On ne rend pas compte à Washington, on rend compte à nos actionnaires. Ce n'est pas la même chose. Leur but n'est pas de maximiser la production, c'est de maximiser leur rentabilité. Et ça ne va pas forcément toujours ensemble. Donc Trump a une deuxième carte. Il se tourne vers OPEP, 12 pays, OPEP plus 22 pays, en disant « je veux plus de pétrole ». Et il est invité à Davos. Alors il vient à Paste en visioconférence fin janvier. Et il a un discours, Davos, tout le monde l'écoute, évidemment, il vient de revenir à la Maison-Blanche. Il a quatre phrases sur le pétrole. Premièrement, je vais demander à l'Arabie Saoudite et à l'OPEP, Trump ne connaît pas l'OPEP+, hein, mais ça veut dire OPEP, OPEP+. Je vais demander à l'Arabie Saoudite et à l'OPEP de produire plus de pétrole pour faire baisser les prix. Deuxième phrase, je m'étonne qu'il ne l'ait pas déjà fait, avant que je revienne au pouvoir. C'est du Trump, hein. Troisième phrase, franchement, ce qu'ils font, c'est pas une preuve d'amour. C'est toujours du Trump. Tout le monde rigole à Davos. Hein. Quatrième phrase, si les prix baissent de façon importante, ça aidera à mettre fin à la guerre en Ukraine. Sous-entendu, ça fera pression sur la Russie, grand pays exportateur de pétrole. Quatre phrases sur le pétrole. L'OPEP+ comprend le message. Pour le mois de mai, juin et juillet, trois mois consécutifs, huit pays de l'OPEP+, sur 22, annoncent, vous l'avez évoqué, qu'ils vont augmenter leur production pendant ces 3 mois consécutifs, 3 fois plus que ce qu'ils avaient annoncé avant. Sans Trump, qu'est-ce qui permet de dire que ces pays ont, en quelques mois, changé complètement de position ? C'est les pressions de Donald Trump. Dans ces 8 pays, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la Russie, qui se dit, Trump m'aime quand même bien, moi Vladimir Poutine, pas moi, mais lui, bon. Y a la guerre en Ukraine, il veut plus de pétrole, quand même je peux lui faire un petit cadeau, vu les enjeux. Vous avez l'Arabie Saoudite, l'Irak, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, Oman, 5 pays arabes du Golfe pour qui le principal protecteur, c'est les États-Unis. Donc quand un président américain demande quelque chose et que ce président s'appelle Donald Trump, en général, pas toujours, il obtient ce qu'il veut.
Et Donald Trump formule cette demande, on l'a compris aussi, au nom du portefeuille de la population américaine qui voit ses prix baisser à la pompe, et c'est toujours satisfaisant. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis que cette satisfaction a lieu, c'est aussi le cas en France. C'est ce que raconte ce reportage de BFM TV en mai 2025.
À la pompe, les automobilistes toulousains sont soulagés.
Je suis content. Il faut que ça baisse encore. Hein.
Si effectivement on paye moins cher à la station d'essence, c'est toujours une bonne nouvelle.
Sur un plein complet, là, ça fait 5 euros. À peu près.
Plus ça baisse, moins ça coûte. Je le vois comme ça, quoi.
Une baisse de près de 5 centimes en moyenne par litre de sans-plomb et de gazole, ce qui devrait permettre à Loris, jeune étudiant, d'utiliser plus souvent son véhicule.
On peut aller plus loin, on peut revenir voir sa famille le week-end. Ce que j'ai fait d'ailleurs pour Pâques. Donc voilà, ça fait plaisir. Et que ça dure et que ça continue à baisser surtout.
5 euros d'économie par plein, cela fait en moyenne 20 euros d'économie par mois pour Hakim et Soraya, qui utilisent souvent leur voiture.
Ça permet de pouvoir faire plaisir ailleurs, par exemple, que de penser qu'au carburant. Ça permet d'acheter autre chose, quoi.
Le loyer, par exemple, dans la nourriture, pour nos loisirs.
Une baisse des prix continue depuis le début de la guerre commerciale initiée par Donald Trump.
Nous avons évoqué une sorte de pic dans les prix en mars 2022, alors notamment dans le cadre du conflit en Ukraine, le baril avait atteint 140 dollars. La France avait alors dépensé 8,5 milliards d'euros d'aide à l'achat de carburant. C'était une politique qui avait été clairement assumée. Hier, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gao, a indiqué que la Banque Centrale Européenne, la BCE, pourrait adapter sa politique monétaire en cas de conséquences durables sur l'inflation de la hausse des prix de l'énergie liée au conflit entre Israël et l'Iran. Patrice Geoffroy, est-ce que c'est cela qui est craint avant tout, l'impact sur les ménages plus qu'une décision, on va dire, sur le long terme, une vision sur le long terme en ce qui concerne l'énergie et en particulier le pétrole? C'est à cela qu'on pense en premier.
Je vous avoue que en termes de politique publique en France à l'heure actuelle, je ne sais pas quelle est la boussole et je suis incapable de vous dire ce que sont et les priorités ou à contrario ce que sont les craintes. Moi, ce que j'observe, et vous l'avez rappelé avec ces 8 milliards, c'est qu'à chaque fois que nous subissons un choc, eh bien, on vient adapter. Alors, très généralement, on a un Premier ministre qui vient à la télé en expliquant que en l'occurrence, c'était Jean Castex, je crois, qui explique qu'on va faire des ristournes et puis qui demande à Total gentiment de surajouter et on attend que ça passe et ça n'a pas empêché d'ailleurs, je relis deux sujets qui peuvent paraître loin, ça n'a pas empêché à l'Assemblée nationale hier de voter, à la grande surprise, un moratoire sur les éoliennes et sur le photovoltaïque sans faire le lien entre ces différents éléments. Donc, à l'évidence, on a perdu le fil du récit. Moi, il me semble qu'il est important, d'un point de vue historique, je parle sous le contrôle d'un historien, de rappeler qu'on est, nous, en Europe, les premiers émergents. On est les premiers émergents et donc on a brûlé à peu près tout ce qu'on pouvait brûler, ce sur quoi on avait la main et qui aurait pu nous conférer une forme de sécurité d'approvisionnement. On avait des empires qu'on a perdus et donc on est dans une extraordinaire dépendance. Extraordinaire dépendance. Et de fait, il y a une partie désormais assez limitée des fossiles qu'on peut importer qui sont simplement l'objet des lois du commerce. Je prends la question du gaz qui est intéressante également de ce point de vue. Au moment du choc en 2022, on s'est coupé assez largement du premier fournisseur de gaz de l'Europe. La substitution s'opère assez largement avec les États-Unis de Donald Trump. Avec les États-Unis de Donald Trump, il est à peu près évident qu'on ne va pas commercer du gaz uniquement sur le fondement des lois du commerce. Il y a des tas de trucs qui vont se mélanger, des droits de douane en échange, et puis des financements militaires et des achats militaires, etc. Autre élément, l'autre grande zone de production, on l'a suffisamment évoquée, c'est le Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, évidemment, il y a des relations contractuelles, etc., mais qui sont dans une zone qui est une zone explosive. Et donc la question qu'on peut se poser, on ne peut pas faire grief, évidemment, aux gens qu'on a entendus et qui, à la pompe, disent « je préfère un prix bas qu'un prix plus haut », mais c'est quel type de politique publique de sortie, alors je ne vais pas parler de transition parce que je sais que la question de transition est une question qui est compliquée, mais en tout cas de réduction de nos dépendances aux fossiles. Et moi, mon point de vue à cet égard est assez radical. Pour une économie, ça vaut pour la plupart des économies européennes, mais en tout cas pour la France, qui encore une fois importe 99% de son pétrole, il faut regarder avec la même crainte un baril à 50 qu'un baril à 150. Parce que de fait, encore une fois, notre société a été déstabilisée. Je ne parle pas du XXe siècle, je parle des 10 dernières années, à commencer par la crise des Gilets jaunes, par un prix du baril qui est un prix fractal, vraiment. Il est, à la fin 99, en 99, il est sous les 10 dollars le baril. Et puis l'Inde et la Chine entrent sur ce marché pétrolier en tant que demandeurs et le prix monte jusqu'à 147. Il redescend sous l'effet de la crise financière, il remonte en taux ondulé aux alentours de 100, il s'effondre en 2014 parce que, pour différentes raisons qu'on détaillera peut-être plus loin, et puis il remonte. Et donc nous deux, nous sommes dans une société qui est sous la menace de ce caractère erratique du prix du baril. Et donc, il faut trouver des modalités, évidemment, pour réduire ces dépendances. Et puis, par ailleurs, des modalités pour essayer de lisser un peu le prix. De ce point de vue, on a une fiscalité qui n'aide pas à ça. Si on met une TVA tout au bout d'un baril sans maîtriser le prix du baril, il est évident que quand le prix monte, la TVA va tirer plus encore vers le haut le prix à la pompe et à l'inverse, lorsque le prix du baril va baisser. Donc, de ce point de vue, il me semble qu'on est sous des menaces auxquelles on s'est confronté très durement ces dernières années. Je crains qu'on n'en ait pas réellement tiré les conséquences.
Patrice Geoffron, vous avez évoqué l'idée qu'en Europe, on a brûlé un peu tout ce qu'on pouvait brûler, cette idée qu'au moins en Europe, on n'ait plus de ressources disponibles. Alors là, Jean-Baptiste Fressos, je voudrais qu'on fasse un point sur cette idée de pic, notamment, qui est très souvent mise sur la table, de pic pétrolier notamment. Est-ce qu'il s'agit uniquement d'une idée du côté de l'offre, finalement, on a plus de ressources, donc voilà. Et est-ce que c'est une définition qui peut être localisée? Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, en Europe, on a atteint un pic pétrolier, ce qui n'est pas le cas et nécessairement dans le monde, et donc du coup, la réflexion n'avance pas de ce côté-là?
Alors, on peut tout à fait dire qu'en Europe, on a même largement dépassé le pic de production pétrolière depuis bien longtemps. Il faudrait voir les SSI de la Roumanie. Et je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on l'a passé, mais ça a dû être assez tôt. La France n'a jamais été un grand producteur de pétrole, un peu en Alsace, mais bon, c'était pas majeur. Donc, il y a aucun problème pour dire que localement, des ressources s'épuisent. Le problème, c'est quand on prend l'échelle du globe et quand on prend l'échelle de tous les progrès technologiques. Cette notion de pic pétrolier, malheureusement, elle est un peu fuyante. C'est-à-dire, on se rend compte qu'on est plutôt face à des plateaux de production à des niveaux beaucoup trop élevés pour des raisons climatiques essentiellement, et qu'on peut pas compter sur le pic pour nous tirer d'affaire sur la question climatique. Donc, c'est vraiment un problème de gérer une surabondance. C'est pas du tout la même chose que la question centrale des années 70 ou comment on gère une crise énergétique. Là, c'est plutôt comment on gère une surabondance de carbone sous le sol. Un autre point important, et ça, c'est vu d'ailleurs dès les années 70, si le pétrole reste durablement à des cours élevés, il y a des moyens, donc on peut faire du pétrole de roche mère, mais on peut aussi liquéfier le charbon. Enfin, il y a malheureusement des technologies encore plus polluantes, j'ai envie de dire, que le pétrole d'Arabie Saoudite. Autre point inquiétant, même le gaz naturel, qui semble a priori échapper à des logiques simplement de marché international, parce qu'on a besoin de gazoducs pour le transporter. Même le gaz, maintenant, devient une substance finalement assez proche du pétrole. Dans les archives, un document qui m'avait beaucoup impressionné, c'est en 1962, les Américains sont furieux des projets de coopération économique entre l'URSS et l'Europe de l'Ouest, qui commencent déjà à vouloir exporter du gaz naturel en Europe. En échange, l'Europe fournit les technologies, en particulier des tubes, pour faire ces grands gazoducs et des stations de compression, etc. Et les Américains disent, autant le pétrole c'est bon parce qu'il y a un aspect marché international, autant le gaz non, c'est vraiment vous mettre dans une dépendance très forte vis-à-vis de l'URSS. Donc vraiment, ces gazoducs, ça a toujours été la bête noire de la politique étrangère, ces gazoducs qui relient l'URSS à l'Europe de l'Ouest. Et puis avec la guerre en Ukraine, on a vu qu'en fait le gaz, ça pouvait se liquéfier, c'est encore plus polluant que le gaz naturel si vous voulez, mais ça devient une substance qui ressemble, même si c'est pas tout à fait pareil, au pétrole. Donc en fait, on se rend compte que malheureusement l'inventivité humaine et prodigieuse pour arriver à sortir et à commercer des cochonneries.
Patrice Geoffron.
Pour aller à l'appui de la démonstration et pour esquisser ce qui s'annonce pour nous Européens, en 2018, Donald Trump est venu à Bruxelles pour un sommet de l'OTAN. Il a dit, c'est public, donc je vais le citer mot à mot, ça va un peu écorcher les oreilles. Il a dit Angela Merkel, Angela, si tu veux bénéficier du parapluie américain, tu ferais mieux d'acheter mon bon gaz plutôt que de celui de Vladimir. Deux commentaires. Premièrement, il n'avait pas totalement tort pour ce qui est de la dépendance vis-à-vis de l'Allemagne. Mais deuxièmement, et surtout pour nous, il est évident que les relations commerciales de manière générale, et notamment les relations commerciales en matière gazière avec les États-Unis, encore une fois, vont se mélanger à des tas d'autres choses, et notamment, sans doute, des problématiques de relevant du militaire. Et c'est évidemment particulièrement préoccupant. Ça veut dire que tous les efforts qu'on va faire pour réduire notre dépendance en matière d'énergie fossile, ça a pour nous une valeur d'assurance collective. La réalité, c'est ça. Je terminerai par ce chiffre. En 2022, au plus fort du choc, la France a importé près de 120 milliards d'euros de pétrole, de gaz, un peu d'électricité, parce qu'on avait une partie du parc électronucléaire qui, au pire moment, ne se trouvait plus en état de fonctionnement. Une année de basse eau, l'année 2020, on devait être à 30 milliards à peu près. Une année moyenne, mais la moyenne ne veut pas dire grand-chose, on est à peu près à 50 milliards. Et donc un choc, c'est un choc d'à peu près 3% du PIB. C'est d'une violence économique extrême. Généralement, on essaie de le couvrir par la dette. Ça concourt à expliquer les niveaux de dette auxquels nous sommes aujourd'hui. Et évidemment, on n'a plus de marge de manœuvre.
Francis Perrin, sur cette question, vous souhaitez réagir. Et puis, j'ai aussi une autre question pour donner des éléments de contexte. Mardi dernier, il y a quelques jours, l'Agence internationale de l'énergie a publié un rapport selon lequel la consommation mondiale de pétrole devrait connaître une légère baisse en 2030, soit selon elle le premier signe de déclin de cette énergie fossile. Alors, les raisons sont très nombreuses, telles qu'elles sont évoquées. Croissance économique atone, tensions commerciales, essor des voitures électriques et abandon progressif du pétrole pour produire de l'énergie. Est-ce qu'il faut croire peut-être non pas à un pic pétrolier par l'offre, mais un pic pétrolier qui sera atteint par une forme d'atonie de la demande, par sa disparition complète? On en est loin, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager?
Alors, le pic pétrolier, du point de vue de l'offre, en 2024, le monde n'a jamais consommé autant de pétrole dans toute l'histoire de l'humanité. Et nous allons battre ce record en 2025. Ça, c'est une certitude. Au-delà, on peut ensuite diverger, mais sur les faits, c'est clair. Donc, le pic... Et le monde n'a jamais consommé autant de pétrole et le monde n'a jamais produit autant de pétrole. Parce que la production monte avec la consommation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de pic. Hein. Sur les marchés boursiers, on dit souvent que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Et ça peut être aussi le cas pour le pétrole. Ce qui est clair, c'est que pour l'instant, on continue à monter. On ne fait pas des bonds énormes sur une année. Ce n'est pas la croissance du solaire et de l'éolien, par exemple. Une croissance lente, mais ça continue à monter. Et pourquoi ça continue à monter du côté de la consommation? Les pays émergents et en développement. Ce n'est pas l'Union européenne qui fait que le monde consomme plus de pétrole. C'est encore moins la France. Mais les pays émergents et en développement, évidemment, c'est important en termes de poids économique actuel. C'est l'Asie, c'est le Moyen-Orient, c'est l'Amérique latine, c'est l'Afrique, etc. Donc, ces pays sont de plus en plus importants et ils continuent à consommer plus de pétrole. Et l'industrie pétrolière suit et réussit, notamment grâce aux progrès technologiques que vous évoquiez à juste titre, à couvrir la demande. Par contre, les perspectives d'un pic de la consommation, ça, c'est beaucoup plus réaliste. Dans une période de temps, alors sur laquelle on peut évidemment avoir des opinions divergentes, l'AIE, vous l'avez rappelé, nous dit 2030, pic de la consommation. Bon. L'OPEP nous dit, l'Organisation des pays exportateurs, pas avant 2050. Alors, on dira que l'OPEP est intéressé, que ce sont des pays pétroliers, en même temps, ils connaissent le pétrole, ils sont aussi quand même des experts en la matière. Alors, choisissez votre date entre 2030 et 2050. Mais, effectivement, il pourrait y avoir... Il y aura certainement, mais je ne donnerai pas de date, un pic de la consommation mondiale de pétrole. Et quand les producteurs verront que la consommation... Alors, pic, plateau. Un pic, normalement, ça veut dire qu'après, si on fait de la montagne, quand vous arrivez sur un pic, après vous descendez. Quand vous êtes sur un plateau, vous pouvez rester assez longtemps à un niveau élevé, mais vous ne montez plus. Bon. Pic ou plateau, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, elle n'augmenterait plus... Est-ce que c'est en 2030, 2040, 2050? On le verra. Et les producteurs, évidemment, s'adapteront à ça. Ils vont pas continuer à produire plus de pétrole s'ils voient que la consommation mondiale, c'est pas encore le cas aujourd'hui, connaît un pic ou un plateau.
Non, ou alors ils vont continuer à proposer des barils à un prix toujours plus bas.
Il faut quand même qu'ils placent leur production. Donc, leur intérêt n'est pas non plus qu'il y ait de plus en plus de pétrole par rapport à une consommation qui serait arrivée à un stade maximal. Et à ce moment-là, les prix du pétrole baisseraient beaucoup, ce qui diminuerait leur rentabilité. Que ce soit des compagnies ou des États producteurs, ils regardent de près, évidemment, ce que ça leur rapporte comme recette d'exportation, les États, ce que ça leur rapporte en termes de rentabilité pour les entreprises.
Non, il n'y a qu'une maladie vraiment moche et chronique. La faim.
Par ici, la plupart des mecs en sont morts. Pas par là.
Par là, c'est le coin des Amerlocs.
Il y a des ricains à l'Aspiras.
Tu parles. Quand il y a du pétrole, ils sont pas loin, tu sais. La SOC, qu'elle s'appelle, leur compagnie. Ils ont leur camp, là, à côté. Bah, eux, ils sont organisés, là. Ils ont leur baraque, leur cantine, leur cimetière, entièrement préfabriqué.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliatovine.
Alors, on le comprend, le cours du pétrole est à la hausse, là tout de suite, maintenant, en raison des tensions géopolitiques et militaires entre Israël et l'Iran, mais tout cela intervient dans une tendance plus longue à la baisse des prix, dans le but, entre autres, de susciter la demande et puis de satisfaire aussi aux exigences de Donald Trump. Faut-il pour autant croire à l'amorce d'une véritable transition énergétique? Cet énième épisode qui met en lumière la dépendance des pays importateurs peut-il contribuer à une prise de conscience et sur le long terme? Les contraintes, les normes, les usages sont-ils en train d'amorcer? C'est un après-pétrole, c'est toute la question que nous posons aujourd'hui dans cette table ronde d'actualité d'Entendez-vous l'écho sur France Culture, autour de laquelle se trouvent toujours, et je les en remercie, Jean-Baptiste Fressoz, Patrice Geoffron et Francis Perrin. Jean-Baptiste Fressoz, on a évoqué l'idée potentiellement d'un pic par la consommation, ce qui, bon, apparemment n'a pas l'air d'être pour tout de suite et les dates divergent assez. Je voudrais vous citer un autre rapport, toujours de l'Agence internationale de l'énergie, c'était le 5 juin, qui faisait état d'un record de 2200 milliards de dollars d'investissement dans les énergies renouvelables et le nucléaire, le stockage et les carburants à faibles émissions, mais aussi dans l'efficacité énergétique et l'électrification, ce qui est censé provoquer aussi une baisse de demande de cette énergie fossile. L'AIE est plutôt positif, hein, les tendances d'investissement actuelles montrent clairement qu'une nouvelle ère de l'électricité approche. Jean-Baptiste Fressoz, c'est là tout l'enjeu aussi de vos travaux, de dire que ce n'est que très difficilement concevable de passer d'une ère à une autre en termes d'énergie. Pour quelles raisons?
Je voulais revenir un instant sur les chiffres du pic. Quand on dit on va passer un pic, on espère, entre 2030 et 2050. En gros, c'est absolument désastreux, catastrophique, parce que ce que nous expliquent les climatologues, c'est que pour ne pas dépasser les 2 degrés, c'est pas un pic qu'il faut atteindre avant 2050 et 2070, c'est zéro. Donc c'est juste, ça nous condamne à un réchauffement de 3 degrés et plus. Donc c'est vraiment gravissime, en fait. C'est-à-dire, on parle d'une planète vraiment profondément transformée. C'est-à-dire là, quand on discute de pétrole, ça, on n'a pas l'impression qu'en fait, on parle vraiment de les océans, quand il faisait aussi chaud et qu'il y avait autant de CO2 dans l'atmosphère, c'était il y a 2 millions d'années, ils étaient 25 mètres plus haut. Donc c'est vraiment une planète radicalement transformée qui nous attend. Alors c'est pas pour demain, hein, cette hausse de 25 mètres, non, ça va prendre très longtemps. Mais c'est une planète très 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 différente, avec des difficultés. Je ne sais même pas si on peut encore parler d'adaptation face à ça. Voilà. Donc il faut vraiment rappeler un peu l'enjeu colossal, beaucoup plus important que le prix du pétrole actuel, etc.
Cela dit, Jean-Baptiste Fressoz, d'où la question sur le prix, parce qu'on peut craindre une espèce de course folle, finalement, face à cette demande de se dire que le prix va baisser, donc inciter encore plus à consommer ce pétrole qui est effectivement une catastrophe planétaire en termes environnementaux.
C'est-à-dire, effectivement, croire que l'économie, le capitalisme tel qu'il existe, tel qu'il fonctionne, est capable de gérer une transition, le passage d'une énergie à une autre, c'est effectivement vraiment se tromper très très largement. Parce que c'est même pas tant une question de prix. Maintenant, les renouvelables sont relativement bon marché, mais tout simplement parce qu'il y a du profit à faire en sortant du pétrole. Donc ce qui compte, en fait, c'est la rente qu'on peut obtenir en produisant une matière. Et le pétrole permet d'avoir des profits importants. Donc l'autre problème aussi, c'est qu'effectivement, on a eu tendance à penser que les bons chiffres que vous donniez à propos des investissements dans les renouvelables allaient, d'une certaine manière, se substituer au pétrole. Et c'est vrai que là aussi, c'est une vision sans doute un peu trompeuse des dynamiques énergétiques et matérielles, parce que, en fait, les énergies, elles sont profondément reliées les unes entre elles. Là, on parle beaucoup de pétrole, mais en fait, le pétrole, sans acier, ça sert à rien. Puisque ça sert à faire rouler des voitures, et d'ailleurs on l'extrait, donc il faut plein d'acier, et on l'extrait avec des tubes en acier principalement, donc le pétrole est une énorme une industrie qui consomme énormément d'acier, et cet acier on le produit à 75% avec du charbon, donc en fait pétrole et charbon sont étroitement reliés, et puis en fait toutes les matières et toutes les énergies sont reliées entre elles, et on a le même problème en fait avec l'envol des renouvelables, dans une moindre mesure, mais par exemple... c'est pas tant le produire les panneaux solaires et les éoliennes qui émettent du CO2, mais pas tant que ça. Le problème, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait avec cette électricité relativement propre. Si c'est pour faire rouler 1,5 milliard de voitures électriques qui pèseront 2 tonnes essentiellement d'acier, mais aussi plein de métaux compliqués, de fait, vous n'avez pas vraiment résolu le problème. Vous reportez, en fait, le passage des 2 et puis des 3 degrés, mais vous ne résolvez pas la question du changement climatique, puisque la question du changement climatique, c'est une affaire, c'est cumulatif, c'est-à-dire c'est pas, c'est tout le CO2 qu'on émet reste globalement dans l'atmosphère sur des temps très très longs. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver vraiment à zéro. Il ne s'agit pas simplement de diviser par 2 les émissions, même si ce serait déjà bien. Et donc, ce que vous décriviez sur l'envol des investissements dans le renouvelable, principalement, ça sert à quoi? Ça sert à produire de l'électricité. Quasiment uniquement à ça. Et l'électricité, c'est important de décarboner l'électricité, mais c'est que 40% des émissions. Donc il reste encore tout un paquet d'émissions qui sont plus difficiles à réduire. Où là, autant dans le domaine de l'électricité, on peut parler de dynamique de transition, je pense que ça fait, même si c'est pas tout à fait une transition, c'est quand même relativement proche. Dans les autres domaines, que ce soit la mobilité électrique, que ce soit la production d'acier, de ciment, l'aviation, le commerce maritime et d'autres, et j'en passe, et l'agriculture aussi, très importante, on n'est pas dans des dynamiques de transition, c'est autre chose, quoi. C'est avec des panneaux solaires, on fait pas grand-chose pour décarboner l'acier, par exemple. Et vraiment, je crois que c'est important d'avoir une vision réaliste sur ce qu'on peut faire technologiquement pour pouvoir avoir discuter d'autres choses simplement que les investissements dans les renouvelables ou rêver de technologies d'acier à hydrogène ou d'avions à hydrogène ou que sais-je encore, pour avoir une discussion sur les quantités. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas une discussion sur les quantités dans tout un tas de secteurs, en fait, on n'a pas une discussion sérieuse sur le changement climatique. Donc, ce qui compte, c'est vraiment le niveau de production. C'est pas tant de changer de technologie, parce qu'il n'y aura pas vraiment de changement technologique. Donc, c'est une question sur les quantités et donc une question sur la redistribution.
Et puis, par ailleurs, pour bien comprendre aussi le niveau d'imbrication que vous nous décrivez, Jean-Baptiste Fressoz, il y a un exemple que vous citez dans votre ouvrage et qui aide bien à comprendre aussi, c'est que quand bien même il y aurait forme de remplacement, en tout cas arrivée d'une nouvelle technologie, une matière première, une nouvelle technologie, participe aussi à en exploiter une autre, quelque part. Vous citez l'exemple notamment du pétrole lorsqu'il est arrivé, en tout cas a été exploité au début des années 30, au tout début du 20e siècle. Il a aidé aussi à produire des tronçonneuses, à alimenter des camions qui ont permis d'exploiter les forêts encore plus. Et du coup, il y a aussi cette idée qu'une énergie n'en remplace pas une autre et au contraire contribue à exploiter encore plus presque la ressource précédente.
Oui, bien sûr. Il y a des calculs qui sont faits. Pour l'Angleterre, dans l'entre-deux-guerres, pour chaque tonne de pétrole brûlé dans les années 30 en Angleterre, on avait consommé 2,5 tonnes de charbon pour produire les voitures et l'infrastructure pétrolière qui dépendait de l'acier et donc du charbon. Donc en fait, le pétrole a stimulé la consommation de charbon. Il y a des remplacements locaux, par exemple, on vire les vieilles machines à vapeur, on met des moteurs diesel, mais globalement, pétrole et charbon se marient très très bien et s'entendent très très bien ensemble, quoi. Il y a des secteurs où il y a des compétitions, c'est dans la production électrique, où là, effectivement on a une autre dynamique, mais à l'échelle d'une économie avec toutes ces interactions matérielles, on est plutôt dans des relations de symbiose et d'expansion symbiotique. Un point très évident, c'est que malgré toutes les innovations du XXe siècle, et Dieu sait qu'il y en a eu, la consommation de toutes les matières premières croît. On a quelques exceptions qui sont tout à fait rarissimes. Un exemple, c'est la laine de mouton, qui a diminué d'un tiers depuis les années 50, mais c'est vraiment rare, quoi. Et c'est lié à la compétition avec les fibres synthétiques, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'environnement. Donc vraiment, les dynamiques technologiques, on a des impressions comme ça de grands remplacements. C'est pour ça qu'on est fasciné par la voiture électrique ou par les panneaux solaires et les éoliennes. En fait, ces dynamiques technologiques, elles ne correspondent pas à des grands remplacements pour les dynamiques matérielles. C'est vraiment autre chose, quoi, qui structure les dynamiques matérielles, les matières.
Et Patrice Geoffroy, à partir du moment où on fait ce constat effectivement qu'il est tout simplement impossible de rendre une matière première obsolète en tant que telle, toute la notion de transition va forcément se heurter à cette impossibilité-là.
Oui, si on est à la COP30, c'est qu'il y en a eu 29 avant.
De fait.
Et que donc à l'évidence, d'une part, on n'a pas établi de consensus, en tout cas durable, et puis par ailleurs, on observe des difficultés que Jean-Baptiste vient d'évoquer. Moi, il me semble qu'il y a un autre élément, si on revient au pétrole et si on revient aux perspectives pétrolières. Francis l'évoquait, il y a très belles courbes, les courbes de l'AIE, donc qui sont assez lissées. On voit que ça redescend à partir de 2030, mais c'est lissé. Et puis celle de l'OPEP monte plus loin, etc. Mais en fait, la réalité de ce qui va se présenter devant nous, c'est pas des trucs lissés d'une manière ou d'une autre. Non, c'est du chaos. Très probablement, parce que on va flirter là avec un monde à 1,5 degré. Peut-être l'a-t-on atteint, en tout cas, des collègues nous ont dit hier, et j'ai lu leur papier qui est assez plus que troublant, que la capacité à rester aux alentours ou en deçà d'un degré 5 est désormais très très hypothétique. Et donc aller vers un monde à 2 degrés, c'est aller vers un monde dont on ne connaît pas, je vais parler avec mon jargon d'économiste, dont on ne connaît pas la macroéconomie. Hein, on a derrière nous, et c'est important pour des tas de raisons, pour nos systèmes de santé, nos systèmes de retraite, etc. On a des hypothèses de croissance macroéconomique. Mais en fait, ce à quoi il faut se préparer, c'est un monde qui soit un monde chaotique d'un point de vue d'un point de vue macroéconomique. A fortiori, naturellement, si dès lors que l'ensemble des mécanismes qui ont été établis à l'après-guerre et qui étaient les mécanismes de multilatéralisme ou à minima de coopération ou à minima de préservation d'un espace de discussion commune sont bafoués, et notamment par les Américains désormais. Donc on va dans un monde qui est plus compliqué, dans lequel, si on devait aller vers une amorce de transition, ça relèverait du tour de force et de l'impossibilité dans beaucoup de domaines, au regard de la matérialité du tour de force qui a été établi clairement par Jean-Baptiste et dans son ouvrage. Il va falloir le faire dans un environnement qui est un environnement très très chaotique. Et donc, de ce point de vue, encore une fois, les perspectives de savoir si le pic pétrolier, le pic de demande va être en 2030 ou va être en 2050 me semblent être de toute façon une vue de l'esprit. Parce que le monde ne va pas être lisse tel qu'on le voit dans ses courbes.
Et ce sera de toute façon potentiellement trop tard, comme le disait Jean-Baptiste Fressois. Ce qui est intéressant,
par ailleurs.
Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est aussi cette idée que on va effectivement vers un monde de plus en plus chaotique où la coopération, et notamment en termes de normes environnementales, est de plus en plus complexe à établir. On pourrait se dire, eh bien, ce qui va remplacer cela, en attendant de retrouver une forme de coopération, ce sont peut-être les lois du marché. De ce point de vue-là, Francis Perrin, c'est intéressant parce qu'on a vu quand même la major pétrolière britannique BP annoncer en février un repositionnement assez fondamentale. Elle a décidé, je le dis très grossièrement parce que le temps presse, mais elle a décidé de mettre de côté ses ambitions environnementales, si tant est qu'elle en ait eu, et a décidé d'augmenter considérablement ses investissements consacrés à la production de pétrole et de gaz de l'ordre de 20%. Tout ça, on peut se dire, si on laisse le marché faire, forcément, si l'incitation va vers plus d'innovation et d'investissement pour exploiter toujours plus, ça va être très compliqué, effectivement, de trouver la porte de sortie vers une transition, ou en tout cas une forme de prise en compte aussi des enjeux environnementaux.
Alors, quelques éléments de réponse, de réflexion par rapport à votre question très importante. BP, effectivement, annonce ce revirement stratégique au début de l'année 2025, après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il y a évidemment, ce n'est pas la seule explication, mais on ne peut pas ne pas faire entrer le président américain dans l'équation pour ce grand pétrolier qu'est BP, qui a d'énormes intérêts actifs investissements aux États-Unis. En dehors de Trump, d'où vient ce revirement de BP? Encore une fois, Trump, c'est un gros morceau, si je puis dire. Hein, le mécontentement des actionnaires de BP. En disant, c'est bien, vous voulez sauver le monde, mais nos dividendes là, la rentabilité de l'entreprise, quand on la compare avec ExxonMobil, ça marche pas.
Oui, mais donc l'incitation est donc celle de la rentabilité.
Alors,
de l'entreprise.
BP avait de vraies ambitions dans le domaine des énergies renouvelables, notamment, pour aller vite. Sauf que, en termes de modèle économique, alors, c'est pas qu'il perdait forcément de l'argent, c'est qu'il n'en gagnait pas assez. Pour revenir à ce que disait tout à l'heure Jean-Baptiste. Nous parlons de firmes privées pour qui un élément clé, c'est la rentabilité. On peut la calculer de différentes façons, mais de toute façon, c'est ça. Shell a aussi ralenti, mais n'a pas fait le même revirement que BP, mais a ralenti dans ce domaine. Dans les grandes majors pétrolières européennes, pour l'instant, encore une fois, les deux mots pour l'instant, Total Energy continue dans ce domaine-là. Avec des objectifs très ambitieux, et on verra ce qui se passera dans les prochaines années. Donc c'est un point très important. L'un de nous, tout à l'heure, a cité le nom d'une autre compagnie pétrolière, Saudi Aramco. Le géant pétrolier saoudien, qui n'est pas une compagnie privée, mais une compagnie nationale contrôlée par l'État saoudien. Celui qui la dirige s'appelle M. Amin Nasser. Saudi Aramco, en 2022, année un peu particulière, guerre en Ukraine, enfin début de la guerre en Ukraine, Saudi Aramco a gagné en 2022, en termes de bénéfices nets, 161 milliards de dollars. Donc quand Jean-Baptiste disait que le pétrole, effectivement, on n'est pas forcément prêt de s'en débarrasser parce que ça représente beaucoup d'argent pour certains intérêts, est-ce que vous connaissez quelles sont les entreprises qui ont gagné 161 milliards de dollars de bénéfices nets en une année? Et que nous dit M. Nasser? Vous nous parlez de transition. Vous, notamment les Européens. Il n'y a pas de transition. Il y a une addition énergétique. Le monde continue à consommer plus de pétrole, de charbon, de gaz naturel, et ajoute en plus solaire, éolien, etc. Il n'y a pas de transition. Factuellement, au jour d'aujourd'hui, il a parfaitement raison. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas plus tard.
Ce qui est intéressant, c'est que Patrick Pouyanné disait exactement l'inverse. Le 10 juin dernier, il s'en est pris, entre autres, à la réforme des labels de finances durables qui exclut en Europe les entreprises pétrolières des fonds dits ESG. Et il a dit « J'en veux au régulateur qui a confondu transition et grand soir en pensant que du jour au lendemain, on allait se débarrasser de toutes les énergies fossiles. » On voit que les avis divergent vis-à-vis de cette notion de transition sur laquelle nous avons pu revenir grâce à vous trois, Patrice Geoffron, Jean-Baptiste Fraisseuse et Francis Perrin. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette émission qui est à réécouter sur le site de France Culture à la page d'Entendez-vous l'écho.